Cet après-midi à l'émission, on a droit à cette chronique du Centre de justice de proximité de l'Outaouais. Puis enfin, on va faire suite un peu à la chronique précédente qui a eu lieu il y a 2 semaines, où on parlait de séparation. Mais là, aujourd'hui, avec Christelle Sauvé, parajuriste au CJPO, on va parler des droits des enfants relatifs à la garde. Christelle, bonjour.
Bonjour, Sébastien.
Commençons tout d'abord en demandant à qui appartient le droit de garde des enfants après une séparation?
En fait, ça dépend des situations. Si les parents optent pour la médiation, ils vont pouvoir eux-mêmes déterminer entre eux qui va avoir la garde des enfants. Sinon, ça va être le tribunal qui va le déterminer. Il faut savoir qu'il y a 2 types de garde en droit familial québécois, donc la garde partagée qui est très répandue, où l'enfant passe de 40 à 60 % du temps parental avec chaque parent, puis la garde exclusive, où l'enfant passe à ce moment-là plus de 60 % de l'année chez un des 2 parents. La garde exclusive peut inclure des droits d'accès ou non pour l'autre parent.
Puis, quels sont les critères qui sont pris en compte par le tribunal pour trancher justement sur la garde?
En fait, lorsque le tribunal statue sur la garde de l'enfant puis les droits d'accès, il va tenir compte principalement de l'intérêt de l'enfant de façon objective, mais aussi de son opinion, si celui-ci est en mesure de l'exprimer. Les juges, à ce moment-là, vont tenir compte de la maturité et de l'âge de l'enfant mineur. Donc, par exemple, un enfant âgé de moins de 8 ans va avoir droit à son opinion, mais le choix et la décision dépendent presque entièrement des parents. Pour un enfant de 8 à 11 ans, l'opinion de l'enfant est fortement considérée et lorsqu'on parle d'un enfant de plus de 12 ans, elle va être déterminante.
Okay.
Par contre, l'opinion de l'enfant, même de plus de 12 ans, peut être écartée si, par exemple, un parent manipule ou tente d'influencer son opinion sur la garde en lui offrant des cadeaux, des sorties fréquentes ou s'il fait des sous-entendus négatifs à l'égard de l'autre parent.
Okay.
Dans l'appréciation du type de garde adoptée, le tribunal va aussi observer puis pondérer différents critères comme par exemple les besoins de l'enfant, la relation entre l'enfant et chacun de ses parents, la santé physique mentale du parent ou ses habitudes de vie comme par exemple s'il y a consommation d'alcool ou de drogue.
Puis c'est quoi la différence entre garde d'enfant puis droit d'accès? Tu l'as mentionné ce terme-là tantôt.
Oui, en fait, le parent qui est avec l'enfant pour plus de 40 % du temps est considéré avoir la garde de l'enfant. L'autre parent va cependant avoir des droits d'accès. Donc, par exemple, en fait, ils sont aussi connus comme des droits de visite ou des droits de sortie.
Okay.
On peut parler de droits d'accès quand un enfant habite chez un de ses parents, mais visite l'autre parent une fin de semaine sur 2, par exemple.
Mm-hmm.
Faut savoir, par contre, que depuis le 1er mars 2021, la loi sur le divorce a justement remplacé les termes garde d'enfant et droits d'accès par un terme qui combine les deux, donc le temps parental, pour parler de la relation qu'un parent a avec son enfant.
Puis est-ce qu'un parent peut s'attribuer la garde de l'enfant sans l'accord de l'autre parent?
Non. En fait, si un parent s'attribue la garde d'un enfant sans l'accord de l'autre, ça peut équivaloir à un enlèvement, concrètement, comme qui est défini au code criminel. Donc, si un parent enlève ses enfants, l'autre parent peut effectivement porter plainte à la police, puis l'infraction peut être sanctionnée par une peine pouvant aller jusqu'à 7 ans de prison, selon le code criminel.
Puis, est-ce que l'enfant a le droit d'avoir des contacts avec le parent qui n'a pas la garde?
Oui, absolument. Les enfants ont le droit d'avoir le plus de contacts possible avec le parent qui n'en a pas la garde, en autant que c'est dans le meilleur intérêt de l'enfant.
Mm-hmm.
Donc, le parent a droit à des droits d'accès. Puis ceux-ci peuvent prendre plusieurs formes aussi, donc des appels téléphoniques, des visites de quelques heures, des sorties incluant un coucher ou simplement une simple sortie ou pendant les périodes de vacances.
Là, on a parlé des parents. Parlons des grands-parents. Est-ce qu'ils ont des droits d'accès, eux aussi?
Oui. En fait, les enfants, ils peuvent entretenir des relations personnelles avec leurs grands-parents, encore une fois, dans la mesure où c'est dans le meilleur intérêt de l'enfant. Donc, ça revient beaucoup, ça. Dès que l'enfant atteint l'âge de 10 ans, il doit consentir à ce que le grand-parent ait des droits d'accès, à moins que l'enfant soit incapable d'exprimer sa volonté. Si on parle d'un enfant entre 10 et 13 ans, puis qu'il ne consent pas aux droits d'accès de ses grands-parents, c'est à ce moment-là le tribunal qui va décider s'il y a maintien de la relation puis du développement.
Okay.
Dans tous les cas, si l'enfant a 14 ans et plus, à ce moment-là, il a le droit de consentir ou de refuser les droits d'accès de ses grands-parents, peu importe s'il y a une ordonnance du tribunal ou non.
Puis dans tout ça, qu'est-ce qu'il y en est de la relation entre les enfants puis les beaux-parents?
Actuellement, le droit québécois ne reconnaît pas le lien entre l'enfant et son beau-parent. Donc, si la relation entre le parent et le beau-parent prend fin, l'enfant pourrait subitement perdre contact avec cet ancien beau-parent, et ce, sans conséquences juridiques, malheureusement.
OK.
Il y a une proposition qui est faite par le gouvernement du Québec qui veut que l'enfant puisse entretenir une relation avec l'ex-conjoint de son parent pour garder les liens significatifs qui ont été créés. Par contre, il ne s'agirait pas là, d'attribuer au beau-parent un droit de garde ou un droit d'accès.
Est-ce que le parent qui a la garde peut déménager sans aviser l'autre parent?
Non, pas sans aviser l'autre parent. En fait, avant de déménager, un parent est obligé d'envoyer un avis écrit à l'autre parent qui a lui aussi du temps parental avec l'enfant. L'avis doit mentionner la date du déménagement, puis la nouvelle adresse.
Okay.
S'il s'agit par contre d'un cas de déménagement important qui risquerait d'empêcher l'autre parent de continuer à avoir son enfant, donc si on parle de déménager dans une autre province ou à plusieurs heures de route, le parent qui souhaite déménager doit envoyer un formulaire qui s'appelle « Avis de déménagement important ». Ça, ça doit être fait dans les 60 jours avant le déménagement.
OK.
Le parent qui va recevoir l'avis peut s'opposer au déménagement. Celui-ci va avoir 30 jours pour répondre avec le formulaire qui s'appelle justement « Avis d'opposition à un déménagement important ». Par la suite, après avoir reçu l'opposition, le parent qui veut déménager doit obtenir l'autorisation du tribunal avant de le faire. Puis le tribunal va prendre en considération des critères pour déterminer s'il autorise ou non le déménagement important. Comme la raison du déménagement, puis les conséquences que le déménagement pourrait avoir sur l'enfant aussi.
Mm-hmm.
Si jamais le tribunal autorise le déménagement important, on peut indiquer aux parents comment répartir les frais qui vont être engagés pour permettre aux parents qui ne déménagent pas de pouvoir continuer à exercer son temps parental. Donc, par exemple, des frais de déplacement ou de voyagement.
Ça, tout ce processus-là, c'est que dans les cas de déménagement important. Un déménagement régulier, on avise, mais on n'a pas besoin d'avoir d'autorisation. C'est ce que je comprends?
Exactement. Donc, okay. Dans le cas d'un déménagement régulier qui n'impacterait pas le temps parental du deuxième parent, donc par exemple un déménagement dans la même ville ou proche, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Il faut simplement envoyer un avis, okay. Faire une mention écrite, donc mm-hmm. qui indique le déménagement et la nouvelle adresse. Mais sinon, pour le processus, là, avec les avis, les oppositions, puis tout ça, c'est simplement lors de déménagements importants où le deuxième parent pourrait, en quelque sorte, perdre son temps parental. Mm-hmm.
Puis là, si nos auditeurs là, qui sont à l'écoute ont des questions là-dessus ou sur d'autres sujets, comment est-ce qu'on peut vous joindre ou comment est-ce qu'on peut avoir de l'information supplémentaire?
Ils peuvent, comme toujours, consulter Éducalois, sinon nous téléphoner au Centre de justice au 1-844-606-4600 pour le numéro sans frais, sinon le numéro régulier au 819-600-4600. Puis sinon, sur nos réseaux sociaux, comme toujours, donc Facebook, Instagram et TikTok. Puis je rappelle que le service est gratuit pour tout le monde, peu importe vos revenus.
Christelle Sauvé, parajuriste au Centre de justice de proximité de l'Outaouais, un grand merci.
Merci Sébastien.